Pluriel Gay.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, tous les auditeurs et toutes les auditrices de Pluriel Gay. Je vous remercie de nous rejoindre. Merci Bernard d'être à la régie ce soir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
J'allais dire, nous sommes tous les deux ce soir, mais pas tout à fait déjà parce que tu as une petite assistante avec toi. Je souhaiterais nommer, ce n'est pas notre Boris habituel, c'est Bengali, qui est ma petite chienne, que je n'ai pas pu faire autrement que d'amener ce soir.
Waf, waf.
Voilà. Donc elle va t'assister, j'espère, brillamment. Mais elle est brillante, c'est normal, c'est ma chienne. Donc on aura aussi par voix téléphonique donc deux invités ce soir pour faire un petit peu le récapitulatif de la marche en fait de samedi essentiellement. De la marche des fiertés. Puis en deuxième partie d'émission, on entendra un son qui a été fait au Lavoir Public, donc une soirée qui a eu lieu dimanche à laquelle tu participais également, Bernard, sur un documentaire en fait qui a été diffusé sur une ancienne marche des fiertés d'il y a 20 ans, 1997, un documentaire exceptionnel de Vincent Boujon, mais je reviendrai dessus plus tard. Normalement, nous devons donc avoir notre premier invité qui est Romain du mensuel Hétéroclite. Je ne sais pas s'il est là, est-ce qu'on va entendre sa voix. Romain, tu l'as. J'ai l'impression de faire tourner les tables. Pour l'instant, j'entends rien, mon petit Bernard. On se croirait au début de l'ORTF, tu sais.
Je crois qu'il ne m'entendait pas très bien.
Ah, d'accord, ben nous, on n'entend pas du tout. Donc c'est encore mieux. On peut peut-être mettre une chanson, non, en attendant. On va faire comme à l'époque de l'ORTF. Veuillez nous excuser de cet incident, indépendant de notre volonté. Bah, on pourrait faire parler Bengali aussi. Sinon, j'ai des annonces à faire. Enfin, bon, il y a toujours quelque chose à faire.
Deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Même une huée ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue elle déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agir, et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol à deux ras du sol. Une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger.
À deux ras du sol.
ce qu'ils en pensent ou disent, je ne pourrais rien y faire. Qui arrête les colombes en plein vol, à deux ras du sol, une femme avec une femme. Oh, oh, oh.
Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Vous avez compris, il y a des problèmes avec le téléphone, c'est génial. On s'éclate sur Radio Pluriel. Donc, on va essayer d'avoir Romain quand même un peu plus tard. Bon, ben, il faut faire avec, hein, il faut que je meuble. Mais heureusement, j'avais prévu des annonces. Alors, je vais... Enfin, il y a le choix. Soit je vous chante une chanson, soit je fais mes petites annonces. Mes petites annonces, c'est pas des plans cul, je vous rassure, c'est uniquement les annonces de ce qui va se passer à la fin de la semaine, là, pour la fin de la quinzaine des fiertés, la quinzaine des cultures LGBT, exactement. Alors, prenez de quoi noter en attendant que ça marche, si un jour ça marche. Donc, vendredi 23 juin, nous en avons beaucoup parlé, la série des Engagés, diffusion de la web-série Les Engagés. Qui est donc proposé par le centre LGBTI, c'est donc au centre LGBTI, à partir de 20h30, 19 rue des Capucins, à Lyon 1er, métro Hôtel de Ville. Les Engagés, c'est cette série dont nous avons déjà parlé. Nous avons eu un certain nombre d'interviews aussi, des protagonistes, metteurs en scène, scénaristes, coproducteurs, etc., et acteurs, qui ont été diffusés ici à l'antenne. Une émission qui avait été réalisée à l'époque par Jeffrey Jordan, donc Les Engagés, qui est diffusée sur Studio 4. Studio 4, qui est donc la plateforme web de France Télévisions, c'est une série produite par France Télévisions, donc financée par France Télévisions. Donc je vais vous rappeler la date importante, c'est le vendredi 23 juin au centre LGBTI, à 20h30, où il y aura la diffusion complète de la série. Sinon, la série peut être vue sur Studio 4. Sur le web. Je vois mon technicien qui arrive, l'air effaré.
On va essayer de voir si on peut parler comme ça.
Comme ça, ça me paraît difficile. Hein, je ne sais pas comment faire.
Hein. Avec en ampli.
Ouais. Ça va. Allô, Romain ?
Oui, ça va ?
Ouais, ça va. Mais je ne sais pas ce que ça va donner parce que je ne suis pas sûr. On va essayer quand même. Mais en plus, bon, ça va faire des manipulations parce que du coup, je ne peux pas avoir le casque, etc. On va essayer. Ça ne va pas être commode. Je sais pas du tout ce que ça donne, ça va donner l'antenne, on va quand même essayer, hein. On va essayer ça. Donc merci Romain d'être là, j'avais commencé à faire mon annonce du 23 juin, Les Engagés, c'est la série Les Engagés va être diffusée le 23 juin au centre LGBTI, 19 rue des Capucins, Lyon 1er, c'est cette série que tu connais bien, que nous connaissons bien ici, qui a commencé à être diffusée, et qui d'ailleurs tous les épisodes doivent être en ligne maintenant sur Studio 4, la plateforme web de France Télévisions. Donc ça, c'est dans le cadre de la quinzaine des cultures, enfin oui, la quinzaine des cultures LGBTI, laquelle se termine samedi prochain, dont j'aurai encore d'autres annonces à faire. C'est une vraie catastrophe ce soir avec ce problème technique, je comprends pas ce qui se passe. On va essayer de faire comme on a dit, c'est-à-dire que je suis avec mon portable, et puis je mettrai le portable à côté du micro, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, le son risque de ne pas être très bon pour les auditeurs, on verra bien, c'est déjà mieux que rien. Ensuite,
comme ça les auditeurs verront que c'est du vrai direct.
Oui, oui, bah ça c'est clair, oui, c'est du vrai direct, je crois qu'ils s'en étaient rendu compte depuis longtemps, à mon avis. pour le reste, on va essayer comme ça. J'espère qu'on pourra, ça sera mieux avec Olivier Borel, qui doit donc être interviewé, qui devait être interviewé au téléphone après toi. Donc Romain, je t'ai demandé de participer soir à l'émission, c'est simplement pour parler un petit peu justement de tes impressions sur la marche de samedi, tout simplement. Voilà, il a fait beau déjà, ça c'est sûr, et pas trop chaud, contrairement on sait, à ces jours-ci où on est en train de crever littéralement, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien qui marche au studio. Donc qu'as-tu pensé de cette marche des fiertés ?
Eh ben effectivement, je trouvais que c'était une belle marche avec beaucoup de monde. Alors je ne sais pas si Olivier tout à l'heure serait capable de donner des estimations de l'affluence, mais je pense que oui, on peut être fier de cette marche avec un parcours donc changé un peu à la dernière minute. Hein. même si je pense que la LGP avait quand même réfléchi à une solution de recours depuis longtemps. Et puis, mais c'est vrai que je regrette toujours qu'il n'y ait pas eu la possibilité de passer dans le Vieux Lyon, puisque, enfin, dans le Vieux Lyon, dans le 5e plutôt, dans le, sur les quais de Saône, dans le 5e. Je pense effectivement que les excuses qui sont avancées par la préfecture sont des fausses excuses et que clairement, elles préfèrent protéger soit des événements culturels, soit des événements qui participent au rayonnement de la ville, plutôt que des manifestations politiques, et que les manifestations politiques deviennent accessoires et secondaires. Et bah, je crois que c'est aussi un des effets pervers de cet état d'urgence dans lequel on est, c'est-à-dire que les forces de police sont surmobilisées et du coup, eh bien, ça sert de prétexte pour ne pas pour limiter les libertés, notamment les libertés de manifester.
Tu avais encore quelque chose à rajouter, Romain, parce que je posais ma
question. Non,
ma
j'avais fini. Je voulais juste savoir si tu m'entendais bien.
Oui, là, oui, je t'ai entendu, c'est bon. Donc, j'ai monté le son au maximum, aussi pour les auditeurs, pour qu'ils entendent, et moi-même. Donc, le fait est qu'il y avait un mot d'ordre, donc qui était ici ou ailleurs, hein, globalement, nos droits ne sont pas négociables. Alors, certains trouvaient que ce mot d'ordre n'était pas suffisamment politique, militant. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors c'est vrai que moi j'aurais bien aimé que le mot d'ordre cible un peu plus des revendications. Enfin alors après c'était en fait je trouvais que ce mot d'ordre on savait pas trop à qui il s'adressait. C'était peut-être sa faiblesse selon moi. Bon enfin bon voilà c'est vrai que c'est difficile aussi de se renouveler chaque année sachant que les revendications malheureusement sont toujours les mêmes, qu'elles n'aboutissent pas, qu'il faut qu'on les mette sur qu'on les porte à nouveau à chaque marche de fierté. Je crois d'ailleurs que c'était en sous-titre du mot d'ordre, hein, il y avait des revendications plus ciblées sur les droits des trans, enfin sur le changement d'état civil, la simplification du changement d'état civil pour les personnes trans, sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Voilà ce que j'ai à en dire.
Alors, on a tous noté le camion, le char de Keep Smiling, lui qui avait fait un mot d'ordre rappelant les événements de Tchétchénie. J'ai trouvé que c'était une heureuse initiative. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Bah, c'était aussi un peu ce qui était sous-entendu dans le mot d'ordre de la marche. C'était ici et ailleurs. C'était pour faire un pont entre à la fois ce qui se passe en France, sur notre situation à nous en France, et puis sur la situation ailleurs, dont la Tchétchénie.
Oui, du coup, dans l'ensemble, c'est quand même, bon, on peut dire que c'est quand même une journée réussie, il y a eu beaucoup de monde, c'était dans l'ensemble festif, c'était une bonne marche, un bon cru à ton avis.
Oui, je pense, oui.
Alors, je voulais aussi que tu interviennes ce soir, donc c'était pour me donner tes impressions un petit peu sur la journée de samedi, donc on voit qu'elles sont positives dans l'ensemble. C'est bien. Je voulais aussi quand même, avant de te laisser, parce qu'on devrait avoir Olivier Borel dans des conditions normales, mais je t'ai aussi demandé d'intervenir ce soir parce qu'il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé lorsque tu es venu à l'émission il y a quelques semaines. Tu étais ici sur le plateau en direct et on n'a pas parlé d'un nouvel événement. En fait, il y a eu plusieurs éditions, je crois qu'il y a déjà eu 3 éditions, qui s'appellent les rotatives. Alors les rotatives, ça fait penser un petit peu aux rotatives là, dans l'impression des journaux. Alors dis-moi un peu de quoi s'agit-il.
Eh bien, ce sont des soirées organisées tous les mois, le premier mercredi de chaque mois, pour le lancement d'Hétéroclite. Donc à chaque sortie d'un nouveau numéro, on organise ces soirées. Elle s'appelle Rotative, bah oui, effectivement, comme tu dis, ça rappelle un peu l'univers de la presse. Et aussi parce que, comme les rotatives de l'imprimerie, cette soirée, elle tourne. C'est-à-dire qu'elle se déroule pas toujours dans le même lieu. On a fait la première au Shabada Café de Mercer. On a fait la deuxième au Drôle de Zèbre, sur la place du Tapis, dans le quatrième. La troisième, c'était mercredi dernier, il y a une semaine tout juste. C'était au Ulysse Bar. Et là, la prochaine, je suis en mesure de vous révéler ce qu'on a exclusivité ce soir, qu'elle se déroulera donc mercredi 5 juillet, donc dans 2 semaines en fait, hein, et qu'elle aura lieu au L-Bar, le bar étudiant qui se trouve être juste en face de nos bureaux, donc pour nous c'est parfait, en plus on n'aura pas trop de chemin à faire.
Donc les rotatives, c'est... Oui, vas-y, parle. Il faut que je remette à chaque fois le téléphone devant le micro, donc c'est un peu compliqué, mais vas-y, si tu as besoin de terminer ce que tu
entends. Non, j'avais rien à ajouter, sinon que c'est un moment convivial, que ça nous permet aussi de rencontrer notre tutorat, et puis voilà, il y a de la musique, il y a un petit buffet, il y a quoi grignoter, et en général, on passe un bon moment, et il y avait du monde sur les trois premières éditions, donc on espère que ça va se développer, et puis... Et puis voilà, s'il y a des patrons de bar qui nous écoutent et qui veulent nous accueillir, c'est toujours avec plaisir.
Ouais. Alors, une dernière chose avant de te laisser, Romain, ça sera vraiment la dernière, je te le promets. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles du Guide Out ?
Eh bien, ça a été aussi l'occasion, c'est vrai que ça a été aussi l'occasion de faire le lancement du Guide Out. Il est sorti il y a une semaine tout juste. La diffusion s'est faite à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne pour ce qui est pour la semaine dernière. Et puis là, cette semaine, on entame la diffusion régionale. Donc, on va aller le livrer un peu dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes.
D'accord. Donc, c'est un guide, rappelle-nous rapidement, c'est un guide qui est édité par Hétéroclite, par le mensuel Hétéroclite.
Voilà. Le guide des sorties LGBT en Rhône-Alpes qui référence tous les établissements et toutes les associations lesbiennes, gays, bi-trans en Rhône-Alpes. Donc, dans les 8 départements. Aussi bien les bars, les restaurants, les boîtes, les sex clubs, les saunas, les associations, les commerces aussi. Donc c'est assez vaste. Je crois qu'il y a à peu près 200 références dans le guide. Et voilà, ça permet de trouver les lieux, d'avoir des renseignements pratiques.
Bon, très bien. Ben, Romain, merci en tout cas d'avoir fait un petit tour par chez nous ce soir. Et désolé pour les conditions déplorables. Apparemment, c'est un ennui technique qui venait directement de la ligne téléphonique. Bon, alors je ne sais pas si à présent... Non, pour l'instant, ça ne fonctionne toujours pas. Me dit Bernard, le technicien, va venir. On est en situation de crise là, Romain. Je pense que tu l'as senti.
Je sens un peu, oui.
Les lignes sont coupées. C'est génial. Il n'y a plus de ligne de téléphone.
Voilà.
D'accord. Bon, il y a vraiment de gros problèmes techniques, tu l'as compris, Romain.
Indépendant de notre volonté.
Donc, merci en tout cas d'avoir participé ce soir avec nous, encore une fois, au téléphone, dans des conditions un peu spéciales. Puis je te dis à très bientôt, en tout cas, sur la radio, à Pluriel Gay.
À bientôt, courage.
Ouais, on va essayer de vous trouver le courage. Merci. Ciao, Romain.
Au revoir.
Bon, ben voilà, il y a un problème technique, on l'a compris, qui n'est pas résolu apparemment. On n'a plus de ligne de téléphone. C'est génial, il faut que ça tombe sur moi, c'est super, j'adore ça. Il faut bien que ça tombe sur quelqu'un de toute façon. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, Bernard, s'il m'écoute, c'est mettre une musique. Hein, on va mettre un peu de musique. Et puis voilà, on va essayer de continuer l'émission dans des conditions qui soient à peu près,
J'ai entendu dire que la terre se passerait bien de nous. J'ai entendu dire de la guerre, il ne serait rien sans nous. Oui, quand on a manqué d'amour, on manque de mots. Mais quand
parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des faits et qu'on se pardonne même.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça marche, Bernard ? Sinon, je peux continuer mes petites annonces, hein, tant pis, hein, je suis là, je vais continuer. Hein. J'avais des choses de prévues. Demain, jeudi 22 juin, toujours dans le cadre de la quinzaine des cultures. Qu'est-ce qui se passe ? Ça marche ? Non, ne me dis pas que ça marche. Non, j'entends rien du tout, mon petit Bernardo. C'est le bordel. Donc, c'est pas grave, je vais continuer mon annonce. Donc, je disais donc que demain, il y a une soirée qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle donc Handicap et Minorité Sexuelle, qui est proposée par FRIS, CRS et Festival et Grand Mixte. Donc, il s'agit de la diffusion, donc d'un documentaire. Je vais essayer de retrouver tout le détail. Un documentaire s'appelle donc un film en fait. La projection d'un film s'appelle Cerveau mouillé d'orage, qui aura lieu en présence de la réalisatrice et ainsi que des protagonistes du documentaire. Bon, il s'agit bien d'un documentaire, donc ça sera au Centre LGBT une nouvelle fois. Ça c'est demain à 19h, donc présenté par Écran Mixte. Et il s'agit simplement donc d'un très beau documentaire que je n'ai pas vu, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est vraiment un documentaire exceptionnel sur justement le handicap et les conditions des minorités sexuelles handicapées. Voilà. Donc c'est à voir. De toute façon, il est prévu une émission spéciale, enfin une émission spéciale. Du moins, Yvan Mitifio d'Écran Mix va réaliser pour nous un petit reportage que nous diffuserons plus tard à l'antenne, je pense, dans des meilleures conditions que celle-ci. Et puis, je ne sais pas ce que me dit Bernard, il ne m'écoute pas, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux mon téléphone ? Je n'entends absolument rien. Donc, s'il est en ligne...
Tu
ne
m'entends pas.
Ah, ça y est, je t'entends, Olivier.
Ah.
Ok, bon, bah, il y a eu un petit problème technique, je pense qu'il est résolu.
On est sauvés.
Eh bien, c'est une chose très terrible qui nous est arrivée ce soir, c'était très difficile. Heureusement, j'avais des annonces, j'avais prévu de faire des annonces ce soir. Donc, j'ai parlé de pas mal de choses qui vont se passer au centre LGBTI. Et, LGBTI. Lors de la quinzaine des cultures LGBTI. Bernard, je n'entends plus rien.
Allô ?
Ah, c'est bon. Oh. La quinzaine des cultures LGBTI, c'est une vraie catastrophe ce soir. Plus la chaleur et tout, je crois que là, c'est fini. C'est fini. Donc, j'ai fait plusieurs annonces concernant la fin de la quinzaine des cultures LGBTI qui se termine en fin de semaine. Et heureusement que j'avais ça, j'ai pu meubler un petit peu. Donc, avant, je ne sais pas si on entendait bien Romain, parce que je l'ai pris avec mon téléphone portable. Je ne sais pas si toi, tu as pu entendre quand même par bribes.
J'ai entendu, c'était pas d'une extrême qualité, mais j'ai entendu un peu ce qu'il disait.
Alors là, maintenant, on a la chance de t'avoir vraiment au téléphone sur les lignes de la radio, donc c'est une bonne chose. Olivier Borel de la Lesbian and Gay Pride de Lyon. Donc je t'ai demandé de parler encore une fois ce soir sur la radio, parce que c'est toujours un plaisir de t'avoir à la radio. Et puis surtout, là, la marche a eu lieu. Bon, la quinzaine des cultures, on l'a vu, n'est pas finie, mais la marche a eu lieu samedi. Donc déjà au niveau du nombre de participants, je pense que c'est un satisfecit que vous pouvez faire, que la LGP de Lyon peut faire.
C'est ça. Bah, tout à fait, oui, parce que c'est la première fois en 15 ans que la police donne un chiffre au-delà des 10 000, puisqu'ils ont annoncé 12 000 personnes. Nous, on n'a pas fait de comptage, donc on n'a pas de chiffre organisateur, mais déjà, quand la police dit au-delà de 12 000, c'est qu'on est plutôt bon, ça veut dire qu'on a fait au moins 2 000 de plus que l'an dernier.
Toutes les années, en fait, la marche montre, en tout cas démontre qu'elle attire de plus en plus de monde.
Tout à fait.
Alors, cette marche s'est bien passée, s'est bien déroulée, il n'y a pas eu d'incident notable. Par contre, le parcours, évidemment, sujet peut-être à caution, je dirais, parce que...
Bon, on peut dire tout simplement qu'il était merdique.
Ouais. Oui.
On va dire les choses clairement. Mais... Et que non seulement il était merdique, mais qu'en plus, le préfet a mis en danger les participants, puisque les voies de circulation, la deuxième voie de circulation sur les berges, n'était pas coupé, et qu'au moment où il y avait des intersections, il y avait des voitures qui pouvaient, de la voie descendante, ils ont essayé parfois de traverser le cortège. On a même eu un camion de pompiers qui a remonté l'intégralité du cortège. Heureusement qu'on est vigilant et qu'on avait un service d'ordre efficace pour permettre d'indiquer aux gens de se décaler pour laisser passer le véhicule de secours, mais voilà, c'était un petit peu particulier sur les quais du Rhône cette année qui nous a été imposé par le préfet.
Oui, parce que ça, c'est une chose récurrente. On en avait parlé lors de ta venue il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines à l'émission. Donc, concernant évidemment le passage par le 5e, par les quais de Saône, en fait, qui est systématiquement refusé par la préfecture et qui a été encore une fois refusé. Mais en fait, vous n'avez eu la réponse que très tardivement. Est-ce que vous avez déposé la demande pour le parcours ?
On a déposé la demande en décembre. Enfin, c'est pas une demande d'ailleurs. On a déposé une déclaration en décembre 2016. Parce qu'on sait qu'effectivement, on n'est pas naïf, hein, on sait que sur le vieux Lyon, le 5e arrondissement, ça demande des effectifs de police supplémentaires pour assurer la sécurité. Donc on avait prévu le coup en disant, bah, comme ça, 6 mois avant, ils auront le temps de prévoir les effectifs, de se préparer au truc, etc. Bon, bah, non, ils ont attendu le 1er juin pour se réunir en préfecture, alors que d'habitude, c'est fin mars, début avril qu'on a cette réunion de préparation. Et puis, effectivement, 3 jours avant la marche, hein, le jeudi matin, à 10h, on voit débarquer chacun chez soi 3 policiers pour nous remettre l'avis d'interdiction du partiel du défilé sur le 5e arrondissement. Voilà, donc c'était assez joyeux, entre guillemets, de se dire, voilà, 3 jours avant la marche, on nous impose un parcours qui n'était pas celui qu'on avait déposé. Voilà. De toute façon, ça ira se régler au tribunal administratif. Notre avocat est en train de rédiger un recours au tribunal administratif pour attaquer cette décision du préfet.
Oui, c'est vrai qu'on avait l'impression de faire le tour du quartier, du pâté de maison, quoi, en fait. Hein.
C'est ça.
Alors, c'est toujours les mêmes prétextes qui sont donc mis en avant par la préfecture pour...
Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2015, c'était l'extrême droite qui posait souci. C'était des réactions de sécurité vis-à-vis des troubles à l'ordre public. Et là, étrangement, en 2017, 2 ans après, c'est plus l'extrême droite qui pose souci. Ça n'a pas été mentionné une seule fois par les services préfectoraux. C'était l'accessibilité des secours. Hein, comme quoi, on bloquerait 2 ponts plus les quais, que du coup, les secours ne pourraient pas accéder au Vieux-Lyon en cas de souci. Ben, on a déjà pu prouver cette année qu'un véhicule de secours peut passer sur la marche. On est capable de serrer le cortège pour faire en sorte qu'un véhicule de secours puisse accéder. Et puis surtout, on sait très bien qu'avec 12 000, 15 000 manifestants, on ne bloque pas à la fois le pont Bonaparte, tous les quais et le pont de la Feuillée. Il y avait tout à fait la possibilité de laisser des accès pour les secours. D'ailleurs, la manif pour tous sur le même itinéraire en 2014, ils étaient 30 000 selon la police. Et là, étrangement, ça n'avait pas posé de problème d'accessibilité des secours. Il n'y a que pour nous que cette question se pose. Donc, effectivement, on va voir avec l'avocat ce qui est possible devant le tribunal administratif. Mais en tout cas, on ne se laisse pas faire, on ne baisse pas les bras et on ira jusqu'au bout. Et c'est la justice qui va trancher cette histoire.
Oui. En dehors de cela, il n'y a pas eu d'incident notable sur la marche.
Non,
ça s'est bien passé.
Pas eu de difficulté.
Tout le monde était content.
Très bonne ambiance sur l'arrivée Place Bellecour, grâce à nos amis de Radio Scoop, une ambiance de folie sur le village associatif jusqu'à 19h. Et ensuite, l'apéro Pride rue des Capucins a été aussi, comme d'habitude,
un
grand moment jusqu'à minuit, 1h du matin.
Ouais. Parce qu'on rappelle que le soir, donc au niveau du centre LGBT de Lyon, donc au niveau du 19 rue des Capucins, cette partie de la rue des Capucins sur les pentes de la Croix-Rousse est donc neutralisée, hein, et les voitures ne peuvent pas passer, et c'est l'occasion pour pouvoir faire la fête. Et il y a effectivement toujours beaucoup de monde, c'est une ambiance très détendue et très conviviale, qui met une bonne... c'est une bonne conclusion de la marche, en tout cas.
Tout à fait.
Alors, pour terminer, Olivier, je voulais simplement te demander, tu sais, ben, tu le sais, je sais pas pourquoi je le dis, tu sais, bien sûr, tu sais, on en a parlé, Laurent Wauquiez a supprimé plein de subventions, on sait que c'est pas l'ami des personnes LGBTI, ça, on avait compris déjà avant, mais là, ça a été confirmé par la suppression de plusieurs subventions à différentes associations LGBTI, dont la LGP. Vous aviez fait un appel au don qu'on avait relié sur les réseaux sociaux et puis à la radio. Comment ça s'est passé, cet appel au don? Est-ce que vous avez pu obtenir la somme? Parce que c'était une somme de 5000 euros qui vous a été supprimée.
On a pu finir, l'appel au don doit être autour là, de 4300 et des boulettes.
Ouais.
Il y a un établissement qui s'appelle l'Impérial, pour ne pas le citer, qui s'était engagé à nous dire... Si jamais vous n'atteignez pas les 5 000, moi je compléterai l'équipation pour que vous les atteigniez.
D'accord. Bien.
On aura les 5 000 euros qui manquaient, notamment grâce à l'Impérial et grâce à toutes les personnes. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont donné de 1 euro jusqu'à 200 euros par certaines personnes. C'est vraiment une grosse participation de beaucoup de monde, et je pense qu'on le refera l'année prochaine. C'est vrai que voilà,
ouais.
On ne peut pas dépendre comme ça des collectivités et des bons vouloirs des collectivités. C'est vrai que cet appel au don, c'est une première et ça a plutôt bien marché. Donc
oui.
On va poursuivre. Voilà.
Oui. Très bien, bah en tout cas, ça sera la 23e marche des fiertés à Lyon l'année prochaine, en 2018. D'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Et j'espère qu'en parlant de ponts.
La PMA sera
oui, déjà.
Avec les femmes d'ici là.
Voilà, qu'il y aura eu des avancées dans ce nouveau gouvernement. Voilà. Et puis, on espère aussi, en parlant donc d'eau qui coule sous les ponts, on espère que la marche arrivera un jour peut-être à franchir la Saône, sur les ponts de la Saône. Voilà, ça serait une bonne chose aussi. En tout cas, bravo à la LGP pour son organisation, pour la marche. C'était une très belle journée, très réussie. Une marche digne de notre belle ville de Lyon. Merci Olivier, en tout cas, d'avoir merci accepté de faire un petit debriefing. Et à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir. Salut. Bien, et ben mon petit Bernard, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Donc, de toute façon, on est sauvé, on n'a plus besoin du téléphone. On va passer ensuite, alors j'avais prévu une chanson, mais on la mettra à la toute fin, parce que là, je voudrais lancer maintenant la deuxième partie de l'émission que j'évoquais donc au début de cette émission, qui a commencé un petit peu de façon catastrophique, qui se terminera mieux, j'espère. Donc, il s'agit d'une captation audio qu'on a faite lors du débat qui a suivi la projection de ce documentaire que j'évoquais, La Fière Journée, qui est un documentaire de Vincent Boujon, que celui-ci a réalisé en 97, il y a donc 20 ans, qui est donc devenu un véritable document d'histoire. On peut le dire, c'était la marche d'il y a 20 ans. On a pu voir un petit peu par rapport à ce qui se passe actuellement, les différences, et par rapport à cette époque-là, ce qui avait changé, ce qui avait évolué ou ce qui n'avait pas évolué. C'était un documentaire très émouvant où on revoyait également des militants de l'époque, dont certains étaient présents donc dans la salle du lavoir public où a eu lieu la diffusion. À la suite de ce documentaire donc de Vincent Boujon, il y a eu un débat. On ne peut pas vraiment appeler ça un débat parce que le public n'est pas vraiment beaucoup intervenu, mais les militants qui étaient présents ont dit des choses extrêmement intéressantes. Et puis, il faut rappeler que Vincent Boujon, donc, qui était à ce moment-là un jeune étudiant à la fac à Lyon, qui n'avait pas de caméra, comme il l'a précisé, avait emprunté une caméra à la fac pour ce projet de documentaire. Et avec... il s'était donc... fait accompagner hein, de deux autres étudiants à l'époque, qu'on va entendre aussi à la fin du au cours du reportage. Donc je vais quand même citer les personnes qu'on va entendre par ordre d'apparition, je dirais. Donc Yvan Mitifio, qui était donc le monsieur loyal, celui qui présentait le débat, qui n'a pas vraiment donc été un débat. À ses côtés, donc Vincent Boujon, le réalisateur du documentaire qu'on va entendre en premier. Sera suivi donc la deuxième personne qu'on entendra sera Alexandre Rabot, qui avait assisté Vincent Boujon à l'époque sur le film. Et ensuite on va entendre donc une personne qui s'appelle Edith Oresta. Edith Oresta, qui est l'ancienne présidente... Brigitte, on va entendre d'abord Brigitte Fontaine. Voilà, rien à voir avec la chanteuse, je précise, nous l'avons vu, c'était pas elle. C'est l'ancienne présidente et la fondatrice, et la cofondatrice du Forum Gay et Lesbien de Lyon, qui existe toujours maintenant. Elle va nous expliquer, elle explique très bien d'ailleurs dans ce qu'on va entendre, dans quel contexte le FGL est né à l'époque. Il venait juste de naître hein, en 97. Ensuite, on a donc entendu Edith Oresta, je vais y arriver, qui était l'ancienne présidente, coprésidente de AIDE à l'époque, qui a également eu un discours extrêmement émouvant, lié donc au VIH et au sida et aux malades du sida. Et ensuite, à la toute fin, on va entendre donc Grégory Mouret, qui s'est lui-même occupé, qui a assisté aussi Vincent Boujon au cours de ce documentaire, qui était donc un mélange de films films de la marche des fiertés, où ils ont pris de la caméra, ils ont été filmés les marches, mais aussi d'interviews de personnes, donc de militants de l'époque. Il faut savoir que c'était la deuxième marche qui avait lieu à Lyon. Il y en avait une en 96. On verra aussi dans quelles conditions, on l'entendra en tout cas dans le reportage, c'était très intéressant. Il faut savoir donc qu'on comprend bien Vincent Boujon et ses deux acolytes ont fait ça dans le cadre de leurs études à la fac. C'était déjà un documentaire très engagé, très militant, puisqu'il a été fait en fait par trois militants. hein, déjà à l'époque. Donc eh ben, on va écouter ça tout de suite. Voilà, on voit le son.
Merci pour ce travail de mémoire extraordinaire. Si vous n'aviez pas filmé ça, ça n'existerait pas. On a l'impression quand même d'avoir assisté à un documentaire des années 70. C'est vrai, c'est quand même assez effrayant de voir qu'il y a à peine 20, il y a à peine 20 ans, on était à ces questions-là. Quoi. C'est quand même grave, quand même, je trouve.
Oui, ben oui, il s'est passé du temps. Les jeunes garçons bodybuildés maintenant ont pris de la bedaine, les drag queens sont devenus grand-mères, et voilà. Et les choses ont bougé, heureusement, mais il reste encore des choses à faire, je pense.
Elles ont bougé grâce aux militants qu'on voit, et puis les militants d'aujourd'hui, Bernard et son compagnon du forum gay lesbien, qui font un travail remarquable au jour le jour. Tout le monde est là pour continuer, puisqu'il y a, tant que l'égalité ne sera pas acquise complètement, il y aura. C'est pas. Voilà.
Oui, et c'est vrai, c'est un film qui a 20 ans, mais ce que je trouve beau, c'est que du coup, le forum gay et lesbien dont on parle à l'époque existe toujours. Il y a des gens, des militants de l'époque qui sont encore là, des militants qui ont pris le relais aussi, qui sont aussi présents. Hier soir, je ne sais pas si vous étiez dans la rue des Capucins, mais il y avait plein de monde, et voilà. Et c'est vrai que c'est chouette, quoi.
Alors, à l'époque, ils disent 1000 à la télé, donc ça, c'était les chiffres de la police, mais c'était 2000, non, plutôt ?
Enfin, oui, c'est comme. Je ne sais pas combien on était hier.
Et vous avez... 12 000 d'après la police.
D'après la police, ouais. Je pense qu'on était 1000, enfin j'ai pas l'impression qu'on était si nombreux que ça, mais bon, ça fait 20 ans, j'ai... Je sais pas, ceux qui étaient présents, vous vous rappelez de...
Plutôt 1000.
Ouais, ça, je pense que c'était plutôt 1000, ouais. On essayait de gonfler les chiffres, hein, c'est normal. Vous voulez dire des choses ?
Je trouve que le film rend bien aussi l'effet de tournant, c'est-à-dire que... La Gay Pride venait juste de s'installer à Lyon. Alors avec un effet d'attente qui avait été assez long, c'est-à-dire que l'arrivée avait été attendue, mais à des moments, il y a quelqu'un qui le dit, quelque part, c'était pas prêt, alors qu'il y avait un décalage. Donc ça veut dire aussi que dans ces événements, il y a une territorialité qui est très forte, c'est-à-dire qu'il y a c'est possible quelque part, ça allait moins ailleurs. Et je me souviens de la première Gay Pride, qui est donc l'année d'avant, qui avait démarré à 14h de Place Jean-Massé, à 14h, il n'y avait personne. Et il y a eu un moment de flottement où on s'est dit, ça n'aura pas lieu. Et puis, il y a eu le quart d'heure lyonnais, probablement, hein, et les gens sont arrivés. Mais c'est vrai que ça a été un peu un tournant de se dire que ça avait lieu à Lyon, que c'était plus nécessaire d'aller à Paris ou ailleurs pour le faire. Et puis, c'est difficile d'évaluer, je trouve, la fonction d'un événement comme la Gay Pride. Et je trouve que l'intérêt de ton film... Ben, on avait discuté à l'époque, il n'y avait rien de disponible. Sur la Gay Pride, qui était quand même un phénomène mondial, mondialisé, enfin, il n'y avait rien. Et on s'était posé la question, mais pourquoi il n'y a rien ? Pourquoi il y a une évidence de la Gay Pride et pourquoi ce n'est pas interrogé ? Et je trouve que ce qui est intéressant 20 ans plus tard, c'est de se dire que ça a participé aussi à une transformation. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un gars qui dit, quand il y aura la visibilité sera assurée, il n'y aura plus d'établissement. En même temps, non. Mais on sentait que de cet événement, on attendait quelque chose, et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y avait l'environnement de ce film, c'est une forte attente que je trouve qu'il restitue assez bien.
Enfin non, en même temps, moi, je trouve que c'est assez juste ce qu'il dit, parce que aujourd'hui, enfin à l'époque, il y a 20 ans, il y avait des restos gays où, quand on était gay, on y allait, mais des fois, si on y allait avec des femmes, c'était pas très bien vu. Enfin, aujourd'hui, les établissements sont moins pertinents. Il y a de moins en moins d'établissements qui ont vraiment la connotation gay très précise, ou s'ils l'ont, ils périclitent un peu, quoi. Donc je pense que cette visibilité, enfin, je trouve qu'il voyait assez juste de ce côté-là. Elle a pas, en tout cas, pas servi les commerces. Et c'est vrai que c'est peut-être moins évident aujourd'hui, mais il y a 20 ans, il y avait vraiment un conflit entre, d'un côté, les établissements qui étaient montrés du doigt parce qu'ils avaient des moyens financiers, une force de frappe, qu'ils étaient là pour faire du business. Donc, voilà, ils arrosaient avec leurs grosses sonos. Et puis, de l'autre côté, les militants associatifs qui portaient le projet et puis qui avaient le sentiment de se faire déposséder, en fait, ensuite, de ces velléités, ces envies politiques dans ce débat. Brigitte, présidente du forum, tu étais la première présidente, il y avait eu, non ? Tu as été à l'origine de la création, comment ?
Oui, pour donner un petit peu de contexte, on a créé le forum juste avant cette Gay Pride, en fait, puisqu'on l'a créé en 96. Il y avait une association qui existait, le Centre Gay et Lesbien, et qui a coulé au bout d'un an. Et avec trois autres personnes, on s'est dit, c'est pas possible. On peut pas laisser finalement couler cette association et rien faire derrière. Donc on a créé le forum, et il y a pas mal d'anciens de l'autre association qui nous ont rejoints, ce qui fait qu'on est parti avec une équipe assez large. Et après la première Gay Pride, à la suite du conflit justement avec les commerces, puisque les commerces avaient financé la première Gay Pride, ils avaient acheté des encarts publicitaires, donc la Gay Pride faisait toute la publicité pour les commerces, et puis les gens s'étaient entendus le soir aller faire la fête dans les commerces, donc ça allait beaucoup rapporter, et ils n'ont jamais payé leurs encarts publicitaires. Donc l'association a coulé avec, à l'époque c'était des francs, 30 000 francs de passifs. Donc il y a eu une AG, et puis personne ne reprenait cette association, donc il y a Sébastien Méric du forum qui a dit « moi je me présente ». Alors on a tous levé la main, et puis on est reparti avec les 30 000 francs de passifs, et donc on est allé voir les commerces, et on leur a présenté la note. Donc on a eu des menaces, on a eu un petit peu peur des fois. On a fini par récupérer un petit peu d'argent, mais bon, finalement, c'est pas ça qui a lancé la deuxième Gay Pride. La deuxième Gay Pride, elle est partie plutôt vraiment d'un mouvement très dynamique de la part des militants, et puis d'une très grosse équipe, de la réunion de plein d'associations, puisque on était en contact effectivement avec les associations féministes des pentes de la Croix-Rousse, dont on avait une personne qui parlait là, des associations, enfin, si on peut dire, à l'art, de tous les gens du forum, en contact avec Aide, en contact avec Rupture, je ne sais pas si les gens connaissent l'association Rupture, en contact avec Kabiria, en contact avec l'Ange Bleu, enfin, il y avait vraiment le Cercle de Bacchus qui était très actif à l'époque, où c'était vraiment plus une association étudiante. Il y a eu une sorte de grand mouvement associatif qui a porté la deuxième Gay Pride, ce qui fait qu'elle a été beaucoup plus vaste. Il y a eu une semaine culturelle, et puis on a trouvé des sponsors un petit peu plus importants. Donc ce qui était intéressant, c'était vraiment, au niveau communication, était beaucoup plus large. Après, je crois qu'après, bon... Ça s'est reproduit comme ça toutes les années. Et les commerces, bon, les commerces, ils ont fini par lâcher prise. On les voit pas beaucoup d'ailleurs sur la Gay Pride de 97. Les commerces, on les voit pas tellement parce qu'en fait, ils avaient dit on viendra pas. On viendra pas, on participera pas. Et on s'est passé d'eux cette année-là. On s'est passé d'eux parce qu'on a eu sept autres sponsors qui s'est occupé des soirées, etc. Donc après, je suppose qu'après, bon, ils ont quand même eu la clientèle le soir, hein, je pense. Faut pas trop pleurer pour eux, mais voilà. J'ai pas entendu qu'il y ait d'autres conflits de ce genre par la suite. Aussi... Ah oui, à Marseille.
Mais même en 2008 ou 2009, lorsque le mot d'ordre de la LGP était la défense des droits des trans, il y avait une scission un peu entre le monde associatif et les commerces, parce qu'ils avaient l'impression de ne pas être représentés. Mais la LGP de Lyon n'a pas lâché prise, et c'était une marche formidable. Donc il y a toujours un peu une rivalité entre les commerces et les associations.
Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, à ajouter sur, sur aujourd'hui aussi, sur, je ne sais pas, comment ça résonne. Je...
Bonsoir. Oui, donc ce film m'a beaucoup émue parce que effectivement j'ai revu plein de visages, plein de gens que j'ai connus. Et puis comme tu disais, les drag queens sont devenues grand-mères, les présidentes aussi. Voilà, moi je retiens de mes années de lui. Alors bien évidemment, comme on le disait avec Denis Hamel, le directeur, alors je vous donne de ses nouvelles. Il est à Paris. Il est paxé et il a une petite fille, voilà, avec son ami, et on se voit souvent. Oui, on est Ed, et dans cette affaire de la Gay Pride, on est là sur un champ qui n'est pas complètement le nôtre. C'est-à-dire que nous sommes sur une association de malades et d'aide aux malades, donc on est bien sur le VIH. Alors bien sûr, on ne peut pas séparer les deux, puisque effectivement la communauté homosexuelle a payé durement et fortement cette épidémie. Alors moi j'étais prof de lettres, hétérosexuelle, trois enfants, et voilà, j'ai lu des articles, beaucoup d'articles sur les premiers cas de sida aux États-Unis. J'ai lu beaucoup Michel Foucault. Voilà. Et dans ce contexte-là, je me suis sentie, en tant que prof, une sorte de responsabilité à l'égard de ces jeunes que je formais et qui allaient rencontrer la maladie. Donc je suis venue à Aide en 91-92 sur la prévention. Donc j'ai fait beaucoup d'actions de prévention pendant 4 ans. Puis le comité aide à Lyon-Rhône-Alpes a rencontré une grosse crise politique, économique, terrible en 96. Et il fallait quelqu'un qui se dise, bon allez, je prends ça et puis j'essaye de remonter. On était menacés de délabellisation par Aide nationale, tout simplement. Donc voilà, en 96, j'ai la chance inouïe d'avoir comme candidat à la direction Denis Hamel. Denis Hamel venait de Ensemble contre le sida et il était sur tous ces dossiers de distribution de subventions reçues par Ensemble contre le sida, par le SIDAction. Et ça a été vraiment 3 ans exceptionnels. On a fait un binôme fabuleux et parce qu'en plus on a rencontré la crise économique avant l'arrivée des trithérapies. Et donc, cette arrivée des trithérapies a complètement transformé le paysage. Moi, j'avais des gens à Aide, des volontaires, qui étaient venus pour tenir la main des mourants, point à la ligne. Et il a fallu que je leur dise, ben c'est fini. On n'a plus à tenir la main des mourants, on va aider les gens à vivre et à travailler. Alors là, ça a été vraiment la grosse chose. Et j'en suis très fière. On a réussi à avoir des crédits européens pour un programme de réinsertion socio-professionnelle des malades du sida à Lyon, avant Paris, avant tous les autres. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, bien sûr, on aurait tellement aimé, tellement voulu que les efforts qu'on avait faits de prévention, d'information, puissent diminuer les contaminations et qu'on avance plus vite. Et aujourd'hui, je suis encore très touchée de voir ces millions de personnes dans le monde qui meurt du sida. Donc je suis toujours... moi, ce que je garde vraiment de cette période, c'est un enrichissement extraordinaire. Un enrichissement d'abord par les penseurs de Aide, Michel Foucault, par Arnaud Marty-Lavozelle, que je salue vraiment, par Daniel Defer, par Pierre Lascoum, sont vraiment des... Peut-être que ça ne vous dit rien, mais ce sont des gens extraordinaires qui ont vraiment pensé la question de la maladie d'une maladie particulière, puisqu'on en mourait, qui mettait la médecine en échec et qui mettait la société en échec. Et donc, elle a eu cette force, parce qu'il y a eu des intellectuels qui ont pensé la chose, de se dire, ben maintenant, on est à égalité avec les médecins. Ils n'en savent pas plus que nous. Et donc, nous savons ce que nous savons sur nous, sur notre maladie, sur notre histoire, et il faut partager cela. Et ça a été la grande chose au niveau du sida, de Aide. Ça a révolutionné la société. Ça a ouvert des champs, une vision globale de la santé, une possibilité de faire avec les trithérapies après, mais avec aussi des médecines parallèles, des choses très douces. Et voilà, on a vécu des choses vraiment, enfin je veux dire, une nécessité de revenir vers les malades qui tout d'un coup vivaient, mais vivaient avec des conditions effroyables. 50, 60 médicaments par jour, on mettait le réveil la nuit pour avaler ces médicaments. Je veux dire, c'était terrifiant, c'était très lourd. Mais en même temps, ça a provoqué dans la société, et c'est là où on voit que les batailles sont jamais gagnées. Il faut toujours les avoir en tête. Parce que très vite, les gens se sont complètement désintéressés. Puisque vous avez des médicaments, vous êtes un malade comme les autres. Je ne vois pas pourquoi je donnerais un peu plus pour ça. Et puis, les jeunes se sont remis à avoir des comportements à risque. Et ils nous disaient tout bêtement, mais moi j'avalerais mes médicaments, point. Donc c'était une avancée formidable pour les malades. Mais c'était vraiment... quelque chose qu'il a fallu accompagner énormément. Et puis, ben voilà, quand j'ai quitté le SIDA, je me suis dit que finalement, le VIH et AIDS, que c'était tellement riche qu'il fallait aller enrichir dans les autres pathologies, le cancer, les autres, qui se contentaient de ramasser des sous pour la recherche, mais qui n'avaient pas encore compris qu'il fallait accompagner les malades et les accompagner sur tous les plans juridiques, sociaux, thérapeutique, voilà. Donc je suis très contente que Vincent m'ait rappelé ça. J'avais jamais vu ce film, mais surtout, ben voilà, j'espère que tout ce qui se passe là, tout ce qui s'est passé, ce que vous allez raconter 20 ans après, ben fasse avancer ces causes. Et surtout, ben moi, je vous ai préparé juste un petit mot de Shakespeare, voilà, qui dit. On peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour.
Si vous avez des questions pour Vincent et son équipe,
ou des remarques,
mis à part le fait qu'on se fringuait super mal à l'époque, qu'on écoutait de la musique horrible, une dernière question. Alors Vincent, le mot de la fin sera pour toi.
Je veux bien le donner, mon mot de la fin, parce que il n'y a pas de mot fin, ça continue, la vie continue. Je sais pas, Greg, toi de cette expérience, t'as un truc à dire?
Au-delà de toute l'émotion personnel de ce beau projet partagé, parce que c'était une belle aventure, j'en retiendrai surtout l'aspect extrêmement militant à l'époque, hein. On l'a évoqué, un militantisme divers qui venait d'un petit peu tout horizon et qui s'était mobilisé autour de cet événement. Et ce film avait été fait d'ailleurs dans ces conditions, avec très peu de moyens, voire aucun moyen, il me semble, si ce n'est du militantisme. Et c'est assez rigolo, forcément, avec le temps, de voir le changement de statut des images, puisqu'aujourd'hui, on considère presque c'est la mémoire.
Merci. Merci à vous. Merci, Vincent. Et justement, il va y avoir une petite entracte, et on va enchaîner avec un autre film qui s'inscrit aussi dans cette démarche-là, un film absolument incroyable, Kiki, qui parle vraiment du militantisme d'aujourd'hui. Aux États-Unis. Merci.
Pluriel gay.
Voilà, donc de retour à l'antenne. Voilà, d'ailleurs, on entendait à la fin, Yvan Mitifio, à la fin de la captation audio qu'on avait faite, donc au lavoir public, Yvan Mitifio qui parlait du reportage qui a été diffusé, du documentaire qui a été diffusé après celui de Vincent Boujon, qui était aussi un excellent documentaire. Voilà, donc il est l'heure maintenant de nous quitter. Désolé pour ce début d'émission calamiteux, mais bon, on s'est un peu rattrapé à la fin. Je voulais simplement remercier Bernard d'être venu, d'avoir pu gérer aussi tous ces problèmes techniques. On a fait ce qu'on a pu, c'était un peu difficile au début. Et puis, je voulais juste rappeler avant de nous quitter, parce que j'ai fait déjà quelques petites annonces, mais je vais finir par une petite annonce, cette émission. Encore une, et je rappelle que ce n'est pas un plan cul que je recherche, c'est juste une petite annonce, enfin une annonce tout simplement, d'un événement dans le cadre de la quinzaine des cultures LGBTI. Le samedi 24 juin, donc Forum des associations du centre LGBTI de Lyon, c'est-à-dire que plusieurs associations adhérentes du centre se sont réunies pour un forum, voilà. Donc ce sera l'occasion de rencontrer des représentants de chacune de ces associations. C'est à partir de 17h, donc 19 rue des Capucins, toujours au centre LGBTI, dans le premier arrondissement de Lyon. Voilà, ben merci Bernard, et puis j'espère que c'est pas Bengali qui a foutu le souk au niveau de la technique au début de l'émission. On va se quitter, on se dit à la semaine prochaine, les émissions continuent jusque début juillet, et vous retrouverez notre émission avec tous nos problèmes techniques sur le podcast des audioblogs d'Arte.
Pluriel Gay, l'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.